quand j'étais étudiant, il y a très très longtemps, on me demandait de formuler des problématiques. Vous vous souvenez? La problématique, c'était pas une affirmation, c'était une question à laquelle il fallait répondre par d'autres questions, avec patience, suivant un cheminement, une réflexion. Est-ce que je remarque dans l'emploi de ce mot aujourd'hui, c'est qu'on a oublié qu'il s'agissait d'une question. On va jusqu'à dire de quelqu'un qu'il est problématique, parce qu'il se comporte mal, parce qu'il emploie des mots blessants, parce qu'il défend l'inacceptable, ce qui va te faire la plupart du temps avec un effacement. Exemple, je ne parle pas aux gens problématiques. C'est quand même très intéressant. Où est le cheminement? Problématique, ça n'est plus une question, c'est une définition. Plutôt que de s'interroger, on définit, ce qui veut dire littéralement qu'on limite, qu'on met dans un cadre, qu'on réduit. Et c'est fascinant de voir comment le mot s'appauvrit. Tous les mots. Prenez le mot déconstruit, très à la mode aujourd'hui, ce mot qui renvoie au processus infini d'une mise en question. Voilà qu'il s'est figé lui aussi. Tant pis pour celui qui l'a théorisé, un certain Jacques Derrida. Aujourd'hui, on peut être déconstruit ou pas, ça n'a aucun sens, mais c'est comme ça. Voilà.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est-elle déconstruite? Elle qui a eu pour lecteur et ami le pionnier et théoricien de la déconstruction Jacques Derrida et qui a été l'une des premières en France à interroger et penser le genre. Elle est l'une de nos plus grandes penseuses et autrices. Rêvoir, son nouveau livre paraît aujourd'hui, c'est une rêverie au gré de laquelle elle ressuscite des fantômes et laisse libre cours à une pensée poétique. Bonjour Hélène Cixous.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire déconstruire, qui est un mot qu'on entend partout aujourd'hui, et s'il y a une personne qui peut bien nous répondre, c'est bien vous.
Mais alors que je vous dise tout de suite que c'est devenu un mot de supermarché, puisque déjà il y a 20, 30, 40 ans, tout était déconstruit, les vestes étaient déconstruites, les lavabos étaient déconstruits, enfin tout a été déconstruit.
Mais quelle était l'idée derrière ce concept de déconstruction?
Alors, d'abord, il ne s'agit pas de destruction. Après, on a fait porter à Derrida tout le temps, comme ça, une sorte de péché contre le désir de construire de l'humanité. Donc, on considérait que c'était destruction. C'est évidemment pas du tout destruction, mais c'est faire vaciller la construction.
D'accord.
Et ça va totalement contre l'idée de fixité d'une construction. C'est trouver l'articulation, le point critique de tout ce qui semble être établi, voilà, et qui passe pour établi, ce qui d'ailleurs fait que la société entière repose sur des constructions. Oui. Nous construisons toujours. D'abord, on peut pas faire autrement. Et en particulier, alors, tout le monde de la pensée, de la philosophie, est dans l'écriture. Mais l'écriture, par définition, elle déconstruit, mais elle n'a jamais fini. C'est-à-dire, quand on dit que quelqu'un est déconstruit ou qu'une chose est déconstruite, on est à l'envers.
Oui, c'est ça.
De la mobilité et de l'instabilité du mouvement de déconstruction.
Vous, par exemple, vous n'êtes pas déconstruite, Hélène Cixous.
Pas du tout, non. De toute façon, je dois dire une chose, c'est que tout le monde, absolument en France, a eu à déconstruire, à faire apparaître quelque chose qui avait l'air tellement bien établi. Par exemple, le temps, le lieu, voilà. Ce qui s'est passé avec le Covid, c'est quelque chose qui a tout ébranlé. Et la déconstruction, ça ébranle.
Ce qui m'intéresse, c'est que cette idée de déconstruction, elle est née dans les années 60 et on en parle aujourd'hui comme si c'était quelque chose de nouveau, partout, tout le temps, comme si on la découvrait. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Qu'en matière d'histoire intellectuelle, d'histoire des luttes, on est parfois amnésique, Hélène?
Oui, mais ça c'est permanent, je veux dire que, oui, vous avez tout à fait raison. Moi, ce qui me frappe, malheureusement, parce que étant donné mon âge et mon parcours, j'ai derrière moi plusieurs générations. Alors chaque fois, je me dis, ben oui, c'est vrai, j'entends comme ça, je vois aussi dans les journaux, dans les médias, etc. Alors, grande découverte, on découvre telle problématique, ou alors telle scène fondamentale de la société, telle douleur qui structure depuis toujours une grande partie de l'humanité, etc. Tout d'un coup, on apprend que les femmes souffrent, les juifs, enfin, tout est découvert, tout le temps. Et je me dis, ben oui, oui, nous sommes des êtres humains, c'est-à-dire que les générations arrivent sans bagage. C'est inévitable.
Ce qui m'intéresse aussi avec cette idée de déconstruction, qui est aujourd'hui centrale dans les études de genre et celles dites décoloniales, c'est qu'il inquiète. Il inquiète toujours. Pour quelles raisons ceux qui déconstruisent inquiètent-ils?
Parce qu'on déstabilise. Parce que c'est un mouvement de déstabilisation.
Vous parliez de vacillement.
Ah oui, absolument. Mais ça, c'est ce qui est difficilement admis, justement, même dans le monde philosophique. Ce que Derrida a commencé à ébranler, en montrant que c'est un mouvement vital. En fait, les gens ne le supportent pas. Ils adorent, ils ont besoin, tous, de quelque chose d'établi, voilà.
Vous inquiétiez, vous, Hélène Sixou, quand vous avez fondé à Vincennes le premier département consacré aux études de genre en Europe. Vous ne parliez pas de genre à l'époque, mais de différence sexuelle, de DS.
On ne pouvait pas parler de sexe, on ne pouvait pas parler de poétique, on ne pouvait pas parler de... On ne pouvait pas utiliser des mots qui sont des instruments de la pensée très élémentaire. On ne pouvait pas dire axiomatique, on pouvait... Enfin, bref. Et surtout pas tout ce qui avait trait, justement, à ce qui serait mitoyen avec la psychanalyse. Et j'ai profité d'une occasion pour fonder cette approche qui existait, mais qui n'était pas reconnue institutionnellement. Je me suis dit, pour que le ministère accepte qu'il y ait un doctorat sur des thèmes qui touchent à ce monde à la fois permanent, présent, des rapports entre les sexes, entre les genres, etc., pour que ce soit accepté par le ministère, il faut que ça soit reconnaissable, il faut que ça existe déjà.
Oui.
Voilà. Alors que c'était totalement nouveau. Donc, je copie la formulation américaine, c'est « women's studies », voilà, les études des femmes. Bon, tout ce qui est de plus vague, de plus large, et c'est comme ça que c'est passé.
Et vous vous souvenez de remarques qu'on vous a faites, d'attaques qu'on a pu vous faire, justement?
Quand je l'ai fondée?
Oui.
Non, il n'y en avait pas dans l'immédiateté de ma recherche, et même si mes collègues n'étaient pas d'accord, en tout cas, ils ne le disaient pas. Mais je peux vous dire que le fait que j'étais une femme et qui avait initié un certain nombre de recherches, ça n'a jamais été accepté de manière joyeuse, pas du tout. C'était, on se résigne, quoi. Bon, d'accord, elle a fait ça, bon, voilà.
Qu'est-ce qui est plus inquiétant chez vous, Hélène Sixou?
Je sais pas. À une époque, c'était effectivement que, quand j'avais 30 ans, j'étais prof de fac, qui n'avait presque pas. Mais maintenant, je pense que c'est plutôt que je continue, alors que ça suffit maintenant. J'ai 84 ans et donc les gens se disent, elle est encore là. Enfin, à vrai dire, il y en a beaucoup qui pensent que je suis déjà morte. Mais bon.
Et qu'est-ce qui vous inquiète?
Ce qui m'inquiète, moi, je pense pas que je sois inquiète. Ce qui me galvanise, ce qui m'inspire tout le temps, c'est le besoin d'aller plus loin dans la recherche qui est la mienne et qui est une recherche poétique. C'est-à-dire que moi j'ai besoin d'écrire, je ne sais pas vivre sans écrire, donc tant que je suis là, j'écris. Mais évidemment, écrire, c'est travailler constamment un trésor absolument infini, infini d'une étendue, d'une profondeur qui est l'écriture, et le langage.
Et les régressions, Hélène Sixou, les backlashes, les retours du boomerang, comme on dit?
Ah, mais ça, j'ai toujours su qu'il y en avait. Je ne me suis jamais imaginé qu'il n'y en avait pas. L'histoire entière, les historiens seraient certainement d'accord. Tout se produit de cette manière-là. On avance, on fait la Révolution française et on revient en arrière. Toujours, toujours. Parce qu'il y a un mouvement d'exaltation où tout d'un coup, on arrive à renverser un mur, à ouvrir des prisons. Mais ça va pas durer, ça va se refermer. Donc il faudra recommencer. Et ça, c'est ce qui fait que les gens qui sont militants sont fatigués à la fin. D'abord parce qu'ils imaginent, quand ils commencent, qu'ils vont changer le monde, que la cause va être victorieuse. Voilà. Alors elle l'est pendant 10 ans, 20 ans maximum. Et hop, on repart.
Votre prise de conscience de la violence, des inégalités, des dominations qui régissent notre monde, comment est-ce qu'elle est née? Vous vous souvenez?
Oh ben oui. Enfin, elle était multiple, parce qu'elle est née, en fait, je dirais, en Algérie et Allemagne, les deux en même temps, puisque mes deux familles, l'allemande et celle qui était en Afrique du Nord, avaient deux expériences différentes de ce que pouvait être l'antisémitisme virulent du début du XXe siècle.
Qu'est-ce que la petite fille que vous étiez dans cette Algérie coloniale a vu?
J'ai tout vu. J'ai tout vu parce que personne ne m'a interdit de voir. Je pense que ça, ma famille, qui n'était pas militante, mon père était socialiste. Le discours politique, c'était l'air qu'on respirait. C'était pas des gens qui étaient, c'était des êtres libres, intelligents, joyeux. Et puis je voyais autour des enfers, une série d'enfers qui se combinaient, se superposaient. Alors il y avait le colonialisme qui pour moi a été une plaie telle que je n'ai eu qu'un rêve depuis que j'ai eu 3 ans, parce que j'étais tout à fait consciente à 3 ans, c'était de partir. Parce que par contre là j'avais pas d'espoir.
Vous y pensez encore à ces images de la petite fille que vous étiez?
Ah oui, elle est toujours avec moi. On se parle d'ailleurs.
Elle vous a guidé?
En tout cas, ces émotions, ces rages et ses chagrins et les humiliations, et tout ça est très présent pour moi tout le temps. C'est un trésor, hein, je m'en réjouis, je peux vous dire.
Vous savez, Hélène Cixous, cette nécessité de prendre conscience de la violence et de la manière dont se construisent les inégalités, c'est une lutte qui est plus active que jamais aujourd'hui. Et il y a parfois la tentation de boycotter, d'effacer, d'annuler celles et ceux qui ne portent pas ces luttes. Cette expression de cancel culture aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle raconte pour vous, qui par ailleurs, je le précise, est angliciste?
Mais ça, ce sont les extrémismes qui accompagnent très souvent des mouvements de libération. Des extrémismes qui font que malheureusement, il y a toujours un excès, voilà. Mais ça, c'est inévitable, il y en a toujours. Si vous voulez, la Révolution française et la guillotine, enfin bon.
Au fond, c'est drôle, parce que quand je vous écoute, j'ai l'impression que chez vous, dans votre travail d'écrivain, notamment, il s'agit toujours de construire, en fait, d'inventer, de créer.
Construire, non. N'en revoir, ce que je souligne, mais qui est toujours là, mais qui est là, qui est principal, c'est plutôt retrouver et mutuellement s'enrichir, retrouver les promesses du monde, de la création, les forêts, les animaux, enfin ce sur quoi justement j'ai énormément écrit il y a très longtemps et qui n'était pas remarqué parce que tout simplement ça n'intéressait personne, mais moi oui, c'est pas de la construction, c'est de la reconnaissance et de l'alliance, c'est de l'aventure commune.
Vous avez toujours été en avance?
Si je me retourne, je peux dire oui, mais en fait j'ai jamais pensé que j'étais en avance, j'ai toujours été. Vous savez, on considère que c'est en avance quand on s'aperçoit que les gens sont en retard. Mais sinon, on ne le pense pas.
Vous savez qu'il y en a une qui n'est pas en avance dans cette émission. Vous la connaissez sans doute, Hélène. C'est évidemment la culture qui, son actualité, qui radote, recycle et souvent se répète. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 7 octobre? Stan Beck, Impec, les très soignées éditions des Saint-Pères publient aujourd'hui en grand format le facsimilé du manuscrit des Raisins de la Colère, classique de la littérature américaine, publié en 1939, chronique âpre et magistrale de la misère et de la famine qui frappe l'Amérique profonde de la fin des années 30. Le texte, rédigé en 5 mois par John Stan Beck, se déploie ici dans une version raturée, corrigée, annotée par l'épouse de l'auteur Carole, qui trouve elle-même le titre original du roman « The Grapes of Wrath ». 30 ans, toujours fringant, c'est aujourd'hui que débute à Marseille l'édition anniversaire des 30 ans de la Fiesta des Suds, le festival ensoleillé et swingo de l'automne phocéen. Jusqu'à samedi, sur l'esplanade J4, à côté du Mucem, en face de la Méditerranée, l'événement reçoit une vingtaine d'artistes au programme Woodkid, Selassou, Gaël Faye, The Avener ou encore le gang des cuivres du collectif Meute. Pour les Noctambules, deux afters seront assurés jusqu'au matin par les locaux Chinese Man et Marseille Connexion. On monte le son.
Dans une société de consommation, un livre, les livres, profitent de ce phénomène de consommation.
Enfin, le dos d'Arcos, hier, l'Assemblée nationale a adopté à la proposition de loi d'Arcos portant sur un tarif réglementé des frais de livraison de livres, un projet qui doit compléter la précieuse loi sur le prix unique de 1981 en s'adaptant aux nouvelles pratiques des géants du e-commerce, Amazon en tête. Pour éviter une concurrence déloyale des GAFAM envers les libraires et éditeurs, la loi prévoit d'instaurer un prix plancher qui pourrait aller de 3 à 5 euros, comme le demande le syndicat de la librairie française. Amazon pousse à la baisse, affaire à suivre. L'autrice Hélène Cixous, invitée de Boomerang ce matin pour la parution aujourd'hui même de son nouveau livre « Rêvoir ». Qu'est-ce que c'est un rêvoir, Hélène?
C'est le texte qui s'appelle « Rêvoir » qui m'a dit « Est-ce que c'était qu'un rêvoir ?» parce que je lui disais que la livre, qui es-tu?
Vous parlez à vos textes, vous?
Ah, c'est eux qui me parlent. Toujours. On dit qu'il y a quelqu'un qui écrit, on l'appelle auteur. Et puis moi, je me disais tout le temps « Mais qui écrit? Qui est-ce qui écrit ça ?» Alors moi, déjà, quand je me dis « Qui écrit ?» Il y a d'abord la littérature dans sa totalité, qui écrit avec moi. Bon. Il y a des esprits qui m'accompagnent tout le temps, et que j'adore, et qui ne sont pas moi. Alors ma mère, les gens que j'ai aimés, ou Derrida, ou Freud, enfin voilà, Shakespeare tout le temps. Bon. Et puis, le livre. Parce que c'est le livre qui décide qu'il arrive. Et c'est aussi, et ça c'est une chose que je trouve absolument saisissante, de temps à autre, à la fin, le livre me dit « Bon, écoute, tu sais, maintenant je vais te dire une chose, moi... j'ai fini. » Moi, je dis au livre, mais non, mais moi, je comptais faire encore quelques pages, un chapitre. Mais non, non, tu vois pas que... Non, regarde. Alors, je me dis, mais c'est pas possible. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien à faire pour déplacer la chose.
Alors, écrire, Hélène Cixous, c'est rêvoir.
Exactement. Le livre m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux, je m'appelle comme ça. Après, j'ai eu d'autres intervenants, des rêves qui sont venus me dire « Mais rêvoir, c'est le titre de ton livre !» Je dis d'accord. Bon.
Auteur ou autrice ?
Alors, en ce moment, c'est autrice, puisque le peuple a décidé. Mais moi, je me dis, c'est tout aussi limitant que auteur. Parce qu'à ce moment-là, c'est féminin, net, bon. Auteur, c'était masculin neutre, sauf que le neutre fonctionne mal en français, alors que c'est quand même très confortable. Mais moi, ça m'est égal. Vous savez, moi, je ne suis pas... dites comme vous voulez, je m'appelle comme vous voulez. C'est exactement ce qui se passe.
C'est vrai que vous êtes plusieurs, on l'a bien compris, Hélène. L'écriture de ce livre, elle est née d'un événement de notre histoire récente, à savoir l'épidémie de Covid-19 et l'annonce du premier confinement. Cette annonce, quel effet est-ce qu'elle a eu sur vous immédiatement? Qu'est-ce qu'elle a provoqué en vous?
Je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, pour une fois, je m'appelle comme tout le monde. Je me suis dit, ça c'est quand même extraordinaire. Ça, c'était une chose qui m'était jamais arrivée, c'est-à-dire absolument comme tout le monde.
Oui.
Parce que quand, par exemple, j'étais frappée, maudite, etc., quand j'étais petite, c'était en tant que juive. Bon. Après, ça a été déplacé. Quand je suis arrivée en France, je me suis dit, ah ben non, je me trompe. C'est en tant que femme, etc. Bon. Avec le Covid, qui vous exclut, vous expulse de vous-même, voilà. Je me suis dit, tiens, alors c'est la première fois que tu es comme tout le monde. Je savais que tout ce que j'éprouvais était éprouvé par comme tout le monde.
Pourtant, il y a eu un silence et il y a eu un cri. Ces cris que vous poussiez en pleine nuit, ces cris qui vous sortent du rêve et qui vous réveillent, que dit le cri?
Pour moi, il dit toujours la mort, la menace de mort. Alors, comme je me sens, comme je suis être écrivant, je me disais, mais alors, je suis encore ou je ne suis plus? Parce que pour moi, être, c'est écrire. C'est respirer, produire des phrases. Bon. Et d'abord, j'ai été muette. Et puis, je me suis dit aussi, et maintenant, je ne veux surtout pas lire des choses sur la peste. Je n'ai fait que ça. C'était absolument compulsif. Je me suis mise à relire, mais je les connaissais tous déjà, ces textes. Tous les textes, justement, sur la peste, évidemment, d'expérience, hein, ou sur la condamnation à mort, parce que c'est exactement ce qui nous arrivait.
Dans un rêve, quand vient la mort, tantôt je crève vite le rêve à l'aide d'un cri déchirant, tantôt je ne bouge plus, je fais comme si morte, j'étais déjà réduite à rien. Cette mémoire de la mort, qu'est-ce que vous en faites?
Mais elle m'a toujours accompagnée, et donc elle a fait de moi quelqu'un qui essaye de résister de toutes ses forces. Alors mes forces, elles sont spécifiques à moi. Elles sont armées surtout de langage.
Parce que c'est bien une exploration de votre mémoire à laquelle vous vous livrez dans ce livre, Hélène Sixou, à travers l'écriture et le rêve. Qu'est-ce que c'est la mémoire, en somme?
Ah, mais ça, alors, dites donc, c'est d'abord un grand exercice d'oubli.
Oui.
Hein, on dit mémoire, mais on ne sait pas ce qu'on dit quand on dit ça.
Et vous dites que la mémoire, c'est une chatte.
La mémoire, c'est une chatte, oui. Elle fait ce qu'elle veut. Elle n'est absolument pas rationnelle, ni organisée. Elle est liée... au foisonnement de nos espoirs et de nos désespoirs, de nos passions, de nos haines.
Mais c'est intéressant, hein, cette métaphore animale, cette métaphore sauvage aussi, elle me parle d'autant plus que les animaux sont très présents dans vos livres depuis longtemps. Dans Animal Amour, paru en avril dernier, vous dites d'ailleurs que vous écrivez comme un animal. Qu'est-ce que ça veut dire au juste, écrire comme un animal, Hélène Sixou?
Comme mes chats. Alors, je dois dire que quand on était à l'intérieur de la tour Covid, je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire qui m'est accordé par le sort. C'est que j'ai fui et je suis partie avec mes chats. Je dis mes chats parce que ce sont deux chattes, mais elles sont aussi des chats et toute autre chose. Elles étaient toutes bébés. Et donc, je suis partie avec mes bébés et je les voyais grandir et conquérir au fur et à mesure tous les merveilleux savoirs, toutes les intuitions de la vie.
C'est ça, écrire?
Ben, je pense que oui, parce que il y a une grande partie. D'abord, c'est l'utilisation du corps. Il faut être acrobate. Moi, je le suis en langue. Et puis, il y a la curiosité. Une curiosité, mais extraordinaire, de chaque petit centimètre carré d'existence qui est interrogée, analysée, expérimentée, mise en mouvement, et en permanence. Et puis, il y a les passions. Parce qu'il n'y a rien de plus passionné que les animaux. Et des passions, mais qui sont les nôtres, et que nous refoulons, que nous essayons comme ça de faire taire, d'amour, de désir, de... Tout est là. Et là, on est libre de recevoir des leçons de ces êtres qui ont une pureté absolue, qui ne sont pas dans le calcul, mais dans les battements de cœur, dans, en fait, l'explication du monde, de la vie menacée de mort, toujours.
Va reparler, Hélène, de vie, d'animal, de mémoire et de rêve, juste après Otis Redding, si vous voulez bien. I've got dreams to remember en 1968. Vous êtes sur France Inter avec Hélène Cixous. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Ah oui?
I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams, dreams to remember. Listen to me.
I've got dreams,
rough dreams,
dreams to remember.
I know you said he was just a friend, but I saw him kiss you again.
On est toujours, et c'est quand même assez troublant, quelque part entre Nefertiti, l'aigrette sauvage et la statue grecque, aérienne et prime sautière avec son cheveu blanc, son œil cosmos et son sourire troublant, tout en pull rose ce matin sous un blouson noir, l'autrice, dois-je dire autrice, Hélène Cixous, invitée de Boomerang ce matin pour la sortie de Rêvoir, mais aussi la réédition la semaine prochaine d'un de vos précédents livres, le livre de Prométhée. Et dans l'un comme l'autre, vous exprimez la difficulté que vous avez à écrire « je » dans un texte. Pourquoi est-ce que la première personne ne va-t-elle jamais de soi, Hélène ?
Mais je peux dire « je ». Là, en ce moment, je crois que je dis « je ». Je dis « je », voilà. Quand j'écris, je m'aperçois que un certain nombre de sujets parlant, écrivant ou dénonciation, c'est pas je.
C'est-à-dire que vous êtes plusieurs.
Et alors je me dis, je vais pas faire comme si c'était je, alors que je sens bien que celle qui s'en va par là ou qui dit ça, c'est H.
Dans le livre de Prométhée, vous dites aussi que dire je, c'est une question de courage. Quel courage est-ce qu'il faut pour dire je ? Quel courage vous a-t-il fallu ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas eu le courage dans mon tout premier livre, qui était Prénom de Dieu, et qui était entièrement au masculin.
Oui.
Et après coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à celle-là ? J'avais pas accès encore à je et elle.
Et qu'est-ce qu'il a fallu pour que vous ayez accès ?
L'écriture. C'est-à-dire que mon tout premier volume d'écrit, c'était de l'ordre de l'hallucination. Alors, je ne sais absolument pas qui écrivait ça.
C'est une question d'autorité, en fait, dans tous les sens du terme.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, j'en ai pas. C'est pour ça, justement, que j'abandonne. Et quand je dis « je », c'est parce que je peux le payer avec mon corps, avec mon cœur, avec mes poumons, je le sens. Voilà.
D'ailleurs, le « je », on peut aussi l'entendre comme « je », J-E-U. Au fond, quel jeu jouez-vous quand vous écrivez ?
De temps à autre, ça joue. Mais peut-être quand j'entre dans un dialogue avec le langage, ça oui, ou avec le texte, avec le voilà. Là oui, ça joue.
Ça me passionne cette interrogation sur le jeu, cette première personne, à l'heure où aujourd'hui on manque jamais une occasion de se positionner en tant que sujet, de dire je tout le temps. Qu'est-ce que ça vous inspire ça ?
Ben je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas de teinture, de culture, d'expérience de penser sur ce que c'est qu'un sujet, qui n'ont jamais feuilleté avec plaisir des innombrables textes de Freud, qui sont un délice.
Hélène Cixous, qu'est-ce que c'est un livre, au fond ?
Pour moi, un livre, nécessairement, c'est... Ça se joue de livres.
Ce sont des fantômes, alors ?
C'est plein de fantômes, mais pour moi, les fantômes ne sont absolument pas les fantômes avec le drap ou le fantôme du roi Hamlet. Pour moi, les fantômes, ce sont des êtres, quand ils viennent, et il y en a, j'en ai beaucoup, ce sont des êtres, des persistants. Voilà. Des présents autrement. On ne peut pas le toucher, mais il me touche.
Que devient le temps quand on écrit ?
Mais qu'est-ce que c'est que le temps ? Ça, c'est justement, je pense que c'est même un des personnages principaux de Révoir. C'est que on a fait des expériences presque comme on en fait quand on prend du LSD, ou comme ça m'est arrivé en hallucination.
Quand vous prenez du LSD ?
Moi, j'en ai jamais pris, mais je connais des proches qui en ont pris.
Vous pouvez tout dire, hein, dans Boomerang, on est OK.
Non, j'en ai pas pris.
D'accord, OK.
Non,
c'est bon, mais... ça aurait été OK.
Mais bon. Non, non. Mais c'est le trésor de quelqu'un qui est proche de moi. Et chaque fois qu'on s'en parle, moi, de mes hallucinations, et lui, de ses excursions de LSD, je me dis, c'est semblable. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, évidemment, qui a produit une sorte d'explosion. Et là, quand tout le monde a eu le Covid, on a tous été des hallucinés du temps. Ah oui. Mais... C'est-à-dire, à ce moment-là, ce qui s'est passé, la première des choses que tout le monde a éprouvées, c'est la mutation, ce sont les mutations du temps. Parce qu'il n'y avait pas... Bon, le passé, il était en train de s'en aller à toute vitesse. Il n'y avait pas de futur. Mais sans passé et sans futur, il n'y a pas de présent.
Mais c'est passionnant. Écrire aujourd'hui, Hélène Cixous, écrire dans une époque où il n'y a plus que maintenant qui tienne, pour vous citer dans Révoir, une époque où les conditions naturelles à la cristallisation ou maturation d'une page ou d'une réflexion sont peut-être de plus en plus difficiles à réunir. Quel sens est-ce que ça a pour vous ?
Pour moi, vous savez, écrire, c'est moi, hein, c'est pas... Voilà. Comme ça ne se distingue pas de respirer et de vivre, à un moment, j'ai eu quelques... Je ne sais plus combien de temps, puisque justement, on ne pouvait pas non plus mesurer quelque chose qui n'était plus là. Mais j'ai été absente. J'ai été en absence. Il n'y avait pas de présence, donc j'étais en absence. Et je pense que c'est l'écriture qui est revenue en me disant, écoute, là, tu vois, je circule. Tu sens ça. Et ce mot. Et le langage. Alors ça, c'est ma discussion avec la langue. Je parle au langage qui me répond, bien sûr.
Bien sûr.
Alors... Je dis au langage, écoute, fais un effort, c'est par ici que j'attends ton radeau. Bon, après je me suis dit, ah ben voilà. Il me répond immédiatement, radeau, comment tu l'écris ? Ben, moi je dis, radeau. Ah ben non, tu me prends pour un radeau. Ah je dis, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bon, d'accord. Après je me dis, mais au fond, qu'est-ce que je dis ? Radeau, c'est quoi ? Vous ne pouvez pas imaginer la richesse de ce mot. C'est inimaginable. D'abord, il a été féminin. Il a commencé en féminin, en radelle. Voilà. Alors pourquoi ensuite, il faudrait suivre la piste très très longuement, hein. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'un radeau, comme vous le savez, et pour moi le radeau de la Méduse c'est aussi iconique, c'est une sorte de plancher qui n'est pas un plancher. C'est un assemblement de poutres qui sont liées, avec ça on marche sur l'eau. Et je me dis, mais c'est exactement ça un livre, c'est un radeau, ça a toujours été un radeau.
Vous nous avez écrit un texte, Hélène Cixous, et c'est... sur ces mots, vos mots, que vous nous avez écrits, que j'aimerais que l'on se quitte.
Alors, je ne sais pas comment il s'appelle, mais disons l'an 2021, nuit.
L'ennui.
L'ennui.
Un jeu de mots encore.
Enfin, il est revenu le rêve qui me fait la tête depuis des semaines. Que me reproches-tu, dis-je ? Ton infidélité, ta façon d'accueillir tous les jours toutes sortes de parasites, ton existence sans élégance, ta dispersion. Et tu crois que nous, tes esprits supérieurs, tes prophètes, nous pouvons subsister dans cette atmosphère polluée ? Ce n'est pas nous, langage et rêve, qui t'abandonnons, c'est toi qui dérives, dit le rêve. Depuis combien de jours suis-je hanté par le besoin de me rendre dans mon pays ? Besoin que je freine, cheval bridé, haletant, car j'obéis aux urgences affligeantes. Zoom, zoom, ménage, mail, SOS femmes, enfants, animaux. Je ronge mon frein, je hennis la nuit, je la hennis. Je me tourne et jette un regard enfiévré vers la porte de mon pays. La porte, la porte ! Je suis en train d'écrire sur sa peau. C'est le cahier. Cahier, quel mot ! Oui, je passe maintes fois devant le cahier fermé. Il suffirait que je l'ouvre et je serai à l'entrée du monde promis. De quel pays je suis ? Je suis du monde, dit Socrate, des montagnes. Attendez-moi, concitoyens, j'arrive. Autour de nous, l'équipage, blocs, feuillets de livres, centaines de pages, provisions de stylos, plumes, tout ce qu'il faut pour le voyage. Le rêve de cette nuit noire était un rêve franchement de mauvais goût. Je ne le rejetais pas. Je comprends pas ces intrusions. Quelqu'un de mort, de méprisé, auquel le rêve accorde un prestigieux laissez-passer. C'était un rêve entièrement peuplé de morts morts. De morts irressuscitables, colériques, méchants, comme le narrateur avec Albertine. Hostiles, maléfiques, de faux hommes. Du moins, cela me fit prendre conscience de la vertu lumineuse des morts libres, pas morts. Revenables, toujours prêts à dire oui à la vie, ma mère, le bien-aimé, mes chats, ceux que la mort ne tue pas. J'ai besoin de Hugo. Je lis Le dernier jour d'un condamné en pleurant. Par ce texte, l'homme Hugo est élevé, couronné juste, sauvé, sauvant, élevant l'élan littéraire au sacré. Où est-il, ou elle, ces jours-ci, l'être qui donne souffle et cri au massacré ? Je suis à la porte, je ne sais pas de quel côté.
Hélène Cixous, qui sont ceux que la mort tue ?
Ceux que la mort tue, pour moi, c'est ce que j'appelle les morts morts. D'ailleurs, les méchants.
Méchants, hein.
Les méchants, les colériques, les assassins, les innombrables destructeurs, les nazis de l'univers, il y en a plein, voilà, il y en a toujours eu.
C'est l'enfer dont vous nous parlez.
Oui, et puis il y a les morts, justement, qui ne sont pas tués, qui restent, qui continuent avec nous, avec qui on peut discuter, et qui sont fidèles.
Alors qu'est-ce qu'il faut pour être immortel ?
Mais ça, ça ne se décide pas, hein. Je pense que pendant le temps, pendant la durée de la vie, qui ensuite voit apparaître comme suite une vie autre, la vie d'après, je pense que ce sont des gens, un mot que j'ai utilisé toute ma vie avec plaisir, et c'est des gens honnêtes. C'est des gens qui n'utilisent pas le mensonge comme pain quotidien, qui ont tous les courages, y compris celui d'avoir peur, hein, parce que franchement, nous avons peur.
Vous avez toujours été honnête, vous ?
Je pense que presque toujours. J'ai été une ou deux fois, j'ai menti une ou deux fois. Dans mon enfance, ça me reste, j'ai des comptes à rendre, mais c'était mineur, mais quand même.
Merci infiniment, Hélène Cixous, d'être venue faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Rêvoir paraît aujourd'hui aux éditions Gallimard et que le livre de Promethea sortira la semaine prochaine dans la collection L'Imaginaire. Les deux sont à votre image, à mon avis, incandescents. 9h39 sur France Inter, Sonia De Villers, l'instant M, tout va bien Sonia ?
Ah bah oui, on est bien, on est là, on est heureuse, on est un petit peu en avance.
C'est bien.
On a deux invités formidables et on a tellement de choses à raconter ce matin.
On vous écoute.
Salut Augustin,
salut. À demain.